Bezrat Hachem. À chaque fois que je branche la caméra ici, je suis un peu pas bien. Parce que c'est pas le cours un mot, une pensée. Là, tout de suite, c'est à 5h, Bezrat Hachem, un mot, une pensée. Là, on est une fois de temps en temps, on vient chez nos tireurs d'élite de Natania. Alors, pour ceux qui les ont oubliés, c'est Rabbi Yigal, d'accord, etc.
On va pas...
hein, donc, Rabbi Avraham, Rabbi Irmiaou, hein. Donc, Baruch Hashem, et on a un petit nouveau, c'est Rabbi
Moshe
Rabbeinu. On a Moshe Rabbeinu avec nous. Attendez, Baruch Hashem.
Le futur de Betty la Rebelle.
Oui, alors, Baruch Hashem, d'accord. Donc, le futur de Betty la Rebelle. Ça, ils ont des noms comme, je vous assure. Je suis avec une équipe. Non, mais faut venir voir sur place, Natania. C'est magique, les enfants. Baruch Hashem. Donc, maintenant, ici, c'est un peu différent. Donc, c'est pas un mot, une pensée. Ça va pas être un cours de 5 minutes. Ça va être un cours qui va durer un petit quart d'heure, Bezrat Hashem. Et à 5 heures après, on fera un autre cours de 5 minutes. Un mot, une pensée, Bezrat Hashem. Mais là, tout de suite, c'est les tireurs d'élite de Natania. Le cours à thème libre. Le cours donc n'est pas préparé. D'accord. Chacun choisit son... Vous avez posé une question. C'est quoi la question du jour? Je suis pas au courant de la question. C'est le même principe que le hameau de pensée, sauf que là, c'est une question complète. C'est quoi la question du jour? Il n'y a pas de question.
Si, la question, c'est pourquoi c'est la femme qui porte les péchés quand elle n'est pas... si elle n'est pas sniout. Et c'est pas l'homme, alors que c'est l'homme qui la regarde, qui la convoite, qui la
dit. Pourquoi c'est tout le temps elle, vous l'avez essayé de poser des questions comme ça, elle, en plus?
C'est une très bonne question.
Non, mais il faut voir que... Attends. Alors...
Ouais, c'est encore à cause de
bon,
nous.
Bon, j'ai compris. Alors Bezrat Hashem. Alors, la question de Betty, c'est qu'on impose les lois de la pudeur à la femme, et que, selon Betty, ce qu'on lui a enseigné, c'est que si la femme n'est pas habillée de noir... Je sais pas, là c'est le moment où ils appellent tous en même temps. Si la femme n'est pas habillée de noir, d'accord, donc si elle n'est pas habillée selon les règles de la pudeur, les fautes lui incomberaient uniquement à elle, c'est ça? C'est-à-dire si un homme il la regarde alors que la femme n'est pas pudique, toutes les fautes de l'homme lui incomberaient qu'à elle.
Bon. Ça va plus loin, si jamais...
C'est ce que vous pensez, en tout cas. Ok, très bien, j'adore le cours là. On va se faire des copains aujourd'hui.
Le soir avec elle, il pense à la femme à qui il a dit, c'est ça le
voilà, exactement. Bon, parce qu'après, il retrouve sa femme, il peut penser à cette femme qu'il a vue dans la journée. Et là, il est avec sa femme au moment, et il pense à l'autre. Il est peut-être même encore plus.
Je peux? Est-ce que je peux parler? Je peux parler?
Ouais.
Ah, je sens que c'est un cours, je ne vais pas me faire beaucoup de copains, mais on va y aller. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. D'accord? Il faut arriver à comprendre, premièrement, hein, que la tzniout, ça vient d'une ordonnance de la Torah, d'accord, qui est de Shimtiou, et vous serez saint. Rashi explique, là-bas, sur place, par rapport à Kedushim Tiou, que tout endroit où on fera attention de ne pas laisser les gens se comporter selon des mauvaises mœurs, d'accord, donc aller librement et exposer leur corps, etc., dans les rues, on verra là-bas que dans ces endroits-là, on trouvera plus facilement de la sainteté, de la kdusha, d'accord. Donc, dans les endroits où on veut avoir une certaine morale, une certaine sainteté, il faut faire preuve d'une certaine pudeur. La pudeur, ce n'est pas uniquement une pudeur vestimentaire. D'accord? C'est aussi au-delà de ça, comme on voit dans les psakim du Rav Osner, une femme qui est habillée de la tête jusqu'en bas, qui est totalement recouverte, le Rav Osner lui estimait qu'il fallait faire attention. Dans la Gemara, on dit que les couleurs voyantes telles que le rouge, d'accord, ou les couleurs fluo, une femme, elle doit faire attention, elle doit éviter de porter de telles couleurs. Une femme comme un homme, pour ne pas se faire remarquer. D'accord. Concernant l'ayin hara, on dit un des points importants pour se préserver du mauvais œil, c'est d'arriver à vivre discrètement. Oui. C'est un monsieur qui va s'acheter la plus belle Porsche décapotable et qui va se balader dans les rues avec, bah, il s'expose un petit peu. Donc faire attention à ce qu'on fait en réalité. Pas être radin, mais en même temps, hein, faire attention quand on s'expose. Donc au-delà de la tzniout et de la pudeur, il y a aussi le fait de ne pas s'exposer. Rentre là-dedans aussi les mœurs des gens. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la société moderne, on est en train de constater que la société, elle est en train de muter. Bah, une personne, si elle a une certaine mœurs, qu'elle les garde pour elle, dans son sein privé, d'accord, chez elle. Ça ne la concerne que elle. Les autres ne sont pas là pour juger une personne par rapport à ses mœurs ou cette façon de se comporter. Ça, c'est dans le cadre de sa vie privée. Donc, on n'a pas besoin de voir ça dans les rues. Comprenez ou pas? C'est beaucoup de discussions à ce niveau-là, ok? Donc, on pourrait reprendre la discussion autour de la Gay Pride, par exemple. Ouais, c'est un truc qui énerve. Parce que les rabbins, dès qu'ils parlent de la Gay Pride, on dit qu'ils sont homophobes. On rappellera simplement que dans la Torah, si on surprend deux hommes en train d'avoir un rapport physique pédéraste, selon les lois de la Torah à l'époque du Sanhédrin, ils étaient passibles de mort, selon les lois de la Torah. Cependant, dans l'histoire du judaïsme, on n'a jamais vu deux hommes ayant commis un tel acte être passés à mort. Deuxièmement, on n'a jamais vu des rabbanim, dans la génération actuelle et les générations précédentes, de faire des appels de mort à l'encontre des homosexuels, que ce soit en Israël ou ailleurs. Chas v'shalom, ça n'a jamais eu lieu. Au contraire, les rabbanim aujourd'hui prennent position contre le fait, par exemple, qu'en Tchétchénie, on massacre des personnes pour leur homosexualité. Ça fait aussi partie d'une certaine tsniout, d'une certaine pudeur, entre guillemets. Ça veut dire aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'il y a une gay pride qui, d'un côté, au départ, c'est une volonté politique de représenter certains droits pour une certaine partie de la population qui ont décidé de ne pas respecter les commandements religieux de la Bible, et c'est leur problème, d'accord ? Donc d'un côté, il y a ça, mais de l'autre côté, il y a une certaine exposition de leur statut, de leur nature. Donc il y a un véritable manque de pudeur à ce niveau-là, d'accord ? Et que nous dit la Torah ? Elle nous dit là où on manque de pudeur, d'accord ? Il n'y a pas de sainteté. Là où on fait attention à sa pudeur, la sainteté vient et s'installe là-bas. C'est quelque chose de très très important. Alors de venir dire que la Torah est homophobe, c'est pas vrai. La Torah condamne l'acte, elle ne condamne pas les personnes. Donc la Torah condamne l'acte homosexuel, elle ne condamne pas les personnes qui ont eu cet acte-là. De plus, depuis qu'on n'a plus le Beit Hamikdash, on n'a pas le Sanhédrin, on n'est pas en droit de pouvoir dire quoi que ce soit ou avoir la moindre sentence sur ces personnes qui sont homosexuelles, dans le sens où même si la Torah dit que si on les surprend à l'époque du Sanhédrin, elles étaient passibles de mort, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, dans l'histoire du judaïsme, on ne trouve pas de souvenir de couple homosexuel qui a été passé à mort, d'accord, qui a été condamné à mort, et aujourd'hui, il n'y a aucun rabbin dans la génération actuelle qui condamne qui que ce soit à mort, chas v'shalom, bien au contraire. Lorsque, à la Gay Pride de Jérusalem, il y a une jeune fille qui n'était pas homosexuelle, qui s'est fait poignarder par un extrémiste religieux, parce que ça existe, des extrémistes, il y en a partout. Il y en a chez les hétérosexuels, il y en a chez les homosexuels, il y en a chez les religieux, il y en a chez les non-religieux. Partout, on va trouver de l'extrême. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, tout simplement ? Quand il y a cette jeune fille qui s'est fait tuer par cet extrémiste religieux, tous les grands rabbanim d'Israël l'ont condamné. Tous les grands rabbanim d'Israël l'ont condamné. Aujourd'hui, on voit des gens de la communauté juive, entre guillemets, qui viennent et qui vont accuser la communauté. Ils parlent de scandales qui ont lieu à Lakewood, d'accord ? Qu'à Lakewood, le 26 juin dernier, il y a plusieurs familles religieuses qui se sont fait arrêter à Lakewood parce qu'ils n'ont pas déclaré aux impôts toute leur entrée d'argent pour recevoir des aides sociales. Le FBI, aujourd'hui, avec Donald Trump, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait une déclaration, entre guillemets, et qui a profité des aides sociales du pays, il est passible de prison aujourd'hui aux États-Unis. Ça fait 2 ans que les rabbanim de Lakewood ont demandé à tous les gens membres de la communauté, parce qu'ils ont été avertis par les autorités, ont demandé à tous les membres de la communauté d'arrêter d'essayer de vouloir arrondir leur fin de mois en profitant des aides sociales aux États-Unis. Maintenant, attendez. On va dire, le rabbin, il balance que les juifs profitent des aides sociales. Attendez, excusez-moi. Dans le monde entier, on a des gens, quelle que soit leur confession, qui, lorsqu'elles sont dans le besoin, profitent des aides sociales des gouvernements dans lesquels ils sont en place. D'accord ? Maintenant, aux États-Unis, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure, d'arrêter les gens. D'accord ? Il y a des gens qui viennent et qui disent, quand des religieux. Premièrement, il y a 2 ans de ça, les rabbinim ont été les premiers à condamner les gens qui font une chose pareille. Deuxièmement, Alpi Alakha, tous les rabbinim le disent, c'est assuré de le faire. On le dit, c'est assuré de le faire, on le condamne, nous les rabbinim. Maintenant, la vérité, c'est que quand on a affaire à des gens qui ne respectent pas la Torah, qui ne respectent pas les mitzvot, quand on a affaire à des gens qui sont homosexuels, de par leur homosexualité, ils sont en contradiction avec l'ordonnance même de la Torah qui interdit l'homosexualité. Donc ils n'observent pas la Torah. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. À partir du moment où j'observe pas un certain commandement de la Torah, j'observe pas la Torah dans son entier. Donc j'observe pas la Torah. Et quand on parle d'un des pires actes qui existent au regard du judaïsme, on peut pas dire qu'on respecte la Torah. On est d'accord ou pas ? Ça a commencé avec votre question de Tzniout. On rappelle, on va y arriver, Bezrat Hashem. Donc quand on voit ces gens-là maintenant qui viennent et qui montent du doigt la communauté, qui montent du doigt les juifs, qui montent du doigt les rabbins, ils sont en train de faire quoi ? Ils ne veulent pas prendre sur eux le Ol Malchut Shamaim, donc de prendre sur eux le joug de la royauté divine totalement, tel que Dieu nous l'a ordonné, et ils veulent la salir. Donc ils s'exposent, ils manquent de pudeur en plus. Même dans leur façon de s'exprimer, ils manquent de pudeur. Rabbeinu Yonah, il rapporte une chose qui est extrêmement importante. On rappelle que c'est un Rishon. D'accord ? Rabbeinu Yonah nous explique que bien qu'on doit éviter les débats, que bien qu'il y a l'interdiction du Lashon Hara et du Motzi Shemra, Rabbeinu Yonah nous explique que lorsqu'on a affaire à des gens qui transgressent des interdits de la Torah, il est une misva pour nous de leur dire « Atkan, c'est interdit !» Tu peux monter au ciel et redescendre 10 fois, ça ne change rien au fait que l'homosexualité est interdite par la Torah. Et ce n'est pas être homophobe. J'ai déjà eu à plusieurs reprises affaire à des homosexuels qui sont venus me voir pour prendre conseil. En tant que rave, je leur réponds. Je leur réponds. Ça ne s'appelle pas être homophobe de dire voilà, il y a un interdit de la Torah, il existe. Tu veux le transgresser, bah yachetra, c'est ton problème. Point, ça s'arrête là. Ne viens pas salir toute une communauté parce que tu as décidé, toi, d'aller à l'encontre d'un interdit. Ça ressemble à ces gens qui passent leur journée au téléphone à voler des petites gens, d'accord, dans les différentes escroqueries qu'on connaît. Et puis, dès qu'ils ont l'occasion de pouvoir taper sur les rabbins, c'est la même chose. C'est la même. Le monsieur, il vole toute la journée au téléphone d'autres personnes. Et puis, de temps en temps, il va taper sur les rabbins à la fin de sa journée. Tu es en train de transgresser un interdit de la Torah. Tu viens taper encore sur les rabbins. Qu'est-ce qu'on aime taper sur les rabbins? C'est une génération, on aime ça. Donc maintenant, on va continuer Bezrat Hashem, notre cours. Voilà, fallait qu'on le dise, parce qu'arrive à un moment donné, Rabbeinu Yonah nous dit, c'est une misva pour nous, quand on a affaire à des gens qui sont à l'encontre des lois de la Torah, des gens qui volent, des gens qui vont à l'encontre d'un interdit de la Torah, que ce soit l'homosexualité ou n'importe quel autre interdit. C'est une misva pour nous de leur dire, Atkan, là vous n'avez pas le droit. Mais Ochiar Tochiar et Amitecha, tu te dois de faire le reproche à ton prochain, Benihima, de façon agréable, de façon sympathique. Mais combien on est là et on est ouvert d'esprit et on discute avec les gens? À combien de fois dans ma vie de rabbin, j'ai eu affaire à des gens qui ont eu différents problèmes à n'importe quel niveau? On est là pour vous. Nous les rabbinim, on vous aime, on est là pour vous. On passe notre temps, on passe notre vie à sacrifier notre temps, notre énergie pour vous, pour s'occuper de vous. Mais ça, les gens n'ont pas envie de le voir. On a envie de salir tous les rabbinis. Et ça, c'est pas très top. Parce qu'en réalité, à travers le fait, quand on a affaire à des gens qui veulent aujourd'hui salir les rabbinis, on a affaire à des gens qui délibérément veulent salir la Torah parce qu'ils ont des intérêts dedans. Ils ont des intérêts, ils veulent vous détourner de la Torah pour vous faire entrer dans autre chose. Donc, Be'ezrat Hashem, on voit donc que la tzniout, ça passe parce qu'Edushim Tziou, une ordonnance de la Torah. Donc, Rashi nous explique que là, on fait attention à être pudique, la sainteté vient là, on ne fait pas attention, l'impureté vient s'installer là. D'accord ? Et après, il a inscrit en plus là-bas, dans Sefer Vaikra, je crois, Al titmiu bechol ele, ki bechol ele nitmiu agoim. Ne venez pas vous rendre impur dans des comportements impudiques. On ne parle pas d'un comportement plus qu'un autre, on parle de tous les comportements impudiques. D'accord ? Car les nations du monde se sont perdues, se sont rendues impures à travers de tels comportements. On parle de quoi? On parle déjà de la génération du déluge. On ne parle pas forcément uniquement des générations actuelles. Comment ils se sont comportés? Un type, il voyait la femme de son voisin à l'époque du déluge. Il allait, il tirait la femme par les cheveux, il l'emmenait chez lui, il l'a kidnappé. On dit Dor Shel Hamas, on dit une génération, ils se volaient les uns les autres. Les gens se faisaient kidnapper. Aujourd'hui en Amérique du Sud, les kidnappings, ça existe encore. Là, allez-nous, il y a encore des régions de ce monde où les gens se font kidnapper. On voit des jeunes femmes qui se font kidnapper en Europe de l'Est et qui deviennent des esclaves, d'accord, malheureusement, ça m'énerve, je vous assure. Vous pouvez même pas expliquer. Quand on parle de la tzniout, c'est un sujet qui est très particulier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup, énormément de fausses idées autour des problèmes de tzniout. Et on va essayer d'expliquer ça de façon claire, d'accord? Bezrat Hashem. On voit en réalité la différence qu'on se doit de faire quand on respecte la Torah et les mitzvot, c'est justement par cette tzniout. Et la tzniout est imposée aux hommes comme aux femmes. Aux hommes comme aux femmes. C'est-à-dire un homme, il ne peut pas venir s'amuser à se balader en short en pleine ville. C'est pas de sa noix. Vous comprenez ou pas? En plus, on ne lui a rien demandé. Hein. S'il a des petits problèmes de surpoids, il n'a pas demandé à avoir tous ses bourrelets en pleine ville. Je sais pas, je vous explique ça. D'accord? Donc, ça c'est premièrement. Ok, donc ça concerne tout le monde, les hommes comme les femmes. Maintenant, il faut bien comprendre. Les problèmes de tzniout, il y a trois dimensions. Il y a une dimension personnelle, où c'est une faute personnelle, qui ne concerne que la personne. Donc une personne qui n'est pas tznoua, une femme qui n'est pas tznoua, pour répondre à votre question, d'accord? tel que c'est expliqué dans la halakha, une femme qui n'est pas tsnoua, en réalité, c'est un problème qui lui est personnel. C'est une faute personnelle entre elle et son créateur. Maintenant, il est vrai que lorsqu'un homme ou une femme qui ne sont pas pudiques vont se balader dans la rue, parce que ça existe dans les deux sens. Aujourd'hui, on a tendance à trop simplifier. D'accord ? Et vont donner de mauvaises idées à des hommes et des femmes mariés en les regardant dans les rues aujourd'hui. D'accord ? Faut être réaliste. Ce n'est pas bien pour eux parce que s'ils ont provoqué de mauvaises pensées à des gens mariés en les regardant, quelque part, ils prennent sur eux en partie les fautes de ces gens-là, à travers leurs fautes, leurs mauvaises pensées. Mais, il faut savoir une chose, c'est aux gens aussi, chacun dans la rue, de voir ils ont une mitzvah de Shmirat Enayim. L'autre, il ne fait pas attention à ses yeux. D'accord ? Maintenant, il est exposé à un homme ou une femme qui n'est pas de sa noix dans la rue. D'accord ? Qui vont le pousser à mal parler de l'autre ou à avoir de mauvaises pensées à cause de cela, malheureusement. Vous comprenez ou pas ? Qu'est-ce qui se passe en réalité ? La personne qui n'a pas été pudique prend sa faute de ne pas avoir été pudique sur elle-même. D'accord ? Mais en plus, elle prend en partie de la faute de l'autre. Mais l'autre aurait dû faire attention à ses yeux. Donc c'est à nous de faire attention à nos yeux. Sinon, comment expliquer qu'un rabbin comme moi se balade dans les rues de Netanya ? Vous croyez quoi ? En réalité, on doit faire attention. Ça veut dire, ça va encore plus loin que ça. Ça veut dire qu'il y a une façon de regarder. Il y a des gens qui passent devant toi dans la rue, tu ne les fixes même pas. Et puis, il y a fixé. Vous comprenez ou pas ? On voit dans la rue aujourd'hui, on va dire, on va donner l'exemple des femmes. Des femmes, parce que c'est ça l'exemple que vous donnez, Betty. Des femmes qui ne sont pas de snoot dans la rue. On passe dans la rue, et puis elle passe. On n'a pas été détaillé. Et puis, aller regarder et détailler. Et aller détailler la morphologie. Regarder un endroit plus qu'un autre, etc., etc. Là, qui a le plus de fautes ? Celle qui s'est exposée ou l'autre qui est parti regarder, scruter de haut en bas ? L'autre, à chaque fois qu'il pose son regard, il a une faute sur elle. Le fait qu'elle ait plus engendré, c'est au niveau social. Il faut arriver à comprendre.
En fait, c'est partagé. Faute partagée.
La faute est partagée, exactement. Mais c'est au niveau social qu'on doit se différencier, faire attention à notre tsniout. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, dans un premier temps, il y a une dimension personnelle. Chez celui qui regarde, c'est une faute qui lui est personnelle. Et chez la personne qui s'expose, c'est une faute qui lui est personnelle à elle aussi. D'accord ? Maintenant, quelque part, les deux sont complices dans la même faute. De la même façon que moi, j'ai des mauvaises pensées, si chas v'shalom, j'ai des mauvaises pensées en regardant une personne qui n'est pas pudique dans la rue. D'accord ? De la même façon, je prends sur ma tête aussi la faute de la personne qui est sortie non pudique dans la rue. Ça, on oublie de le dire. C'est Zohar, il le rapporte. Le Zohar, il rapporte qu'une femme qui n'est pas noire, donc une femme qui n'est pas pudique et qui sort dans la rue, d'accord, et qui va donner de mauvaises pensées à un homme marié, d'accord, de par son manque de pudeur. Là-bas, on parle de quoi ? On parle d'une femme qui réellement s'expose, que même un homme qui est tzadique, il va regarder. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? C'est-à-dire, on va vous parler de femmes comme les starlettes de Cannes, entre guillemets. Pour ceux qui ont un peu de culture, ok ? Ou c'est des jeunes femmes qui vont là-bas, d'accord, et qui vraiment s'exposent, ils veulent choquer à travers une façon de se vêtir et de se comporter et de marcher. Alors oui, une femme qui est comme ça, elle a un problème, elle va prendre sur sa tête, parce qu'elle provoque la faute. Alors qu'une qui a pris l'habitude, on va dire comme ça, elle a pris l'habitude de s'habiller en short, d'accord, elle sort pas en maillot de bain dans la rue. Elle est en short, pas trop serré, etc., elle est sortie dans la rue. Il y en a un qui vient, qui la regarde. Après, c'est tout est relatif. On n'est pas dans les contes d'Akadosh Baruch Hu. C'est aussi aux gens d'apprendre à éduquer leur regard. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde où on ne peut pas sortir dans la rue sans être exposé à des gens qui ne sont pas habillés selon toutes les règles de la pudeur juive. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de sortir dans les rues ? Vous comprenez ou pas ? Il y a un regard à éduquer. Celui que ça dérange, il a qu'à regarder par terre. Il n'y a personne qui lui a demandé de lever sa tête. D'ailleurs, on apprend de Avraham Avinu qu'Avraham Avinu en permanence, à chaque fois on dit qu'Avraham Avinu il levait la tête. Pourquoi ? Parce qu'Avraham Avinu, quand il marchait, il passait son temps à regarder en bas. Moi, Baruch Hashem, j'ai une bracha extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Vous me voyez marcher dans les rues, j'enlève mes lunettes. Et je dis à mes enfants que c'est une bracha d'avoir des lunettes. Quand j'enlève mes lunettes, vous êtes tous des taches dans la rue. Oui ? Tous des taches. Vous devenez tous flous. D'accord ? De toute façon, c'est une génération où il n'y a que des... C'est tout est flou, ben, pour Adjosef. Donc, quand j'enlève mes lunettes...
Ça ne t'empêche pas de ne pas prendre un poteau, quand même.
Quand... Le poteau, tu le vois quand même. Mais je ne vois plus rien. Tu ne vois plus le détail. Il n'y a plus le détail de rien. Donc, quand j'enlève les lunettes, Baruch Hashem, on n'a plus le détail de quoi que ce soit. Baruch Hashem. Donc, il faut faire attention à ces petits points-là, au niveau de la tsniout. Donc, il y a cette dimension qui est personnelle.
Donc, c'est partagé.
La deuxième dimension qu'il y a au niveau du manque de tsniout, c'est que ça peut atteindre l'éducation de nos enfants. Comprenez ou pas? Parce que malheureusement, on le voit de génération en génération. Moi, je me souviens de mes grands-parents qui disaient « Mais c'est quoi cette génération de fous ?» Oui. Et je me dis « Mais quand va arriver le moment où moi, je vais comprendre que j'ai vieilli, je vais dire « Mais c'est quoi cette génération de jeunes ? Ils sont fous. » Oui. Et puis quand j'ai vu des jeunes commencer à faire les coupes iroquois et à se raser totalement les cheveux sur les côtés et avoir des coupes comme ça, je me suis dit « Ah, ça y est, les punks qui sont revenus, ça y est, on est génération maboule. » Vous voyez ? Donc en réalité, qu'est-ce qu'on essaie de dire ? C'est que justement, parfois le manque de pudeur à un niveau ou à un autre, il y a des niveaux dans la pudeur juive, vous comprenez, dans la pudeur, dans la façon de se vêtir, de se comporter et de parler aussi, vous comprenez, et de s'exposer. Eh bien, ça aura des conséquences sur l'éducation de nos enfants, ça c'est une deuxième dimension. Et c'est une autre faute dans le problème de la tzniout. Parce que toute la volonté de la pudeur, c'est justement de rester simple, de rester à sa place, d'apprendre avant de juger son prochain, à bien réfléchir au sujet, avant de devoir se prononcer malheureusement, si on ne nous laisse pas le choix de devoir nous prononcer. Comprenez ou pas? C'est toute une règle de pudeur, Baruch HaShem. À partir du moment où cette pudeur, cette règle-là de pudeur se met en place, il y a l'amour de son prochain qui se met en place. Il y a l'humilité qui vient avec. Il y a plein de conditions qui viennent et de midot, de qualité humaine et divine qui viennent avec la tzniout, qui vont engendrer que ça va nous faciliter quelque part notre travail dans l'éducation de nos enfants. Comme ça peut nous bousiller l'éducation de nos enfants. Si moi, je m'expose, je me permets de juger en public, je parle à voix haute, j'apostrophe les gens dans la rue, je me permets de dire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, etc. Ça, il y aura forcément, malheureusement, des risques de conséquences sur l'éducation de mes enfants. Et le troisième point, et on arrêtera là, Bezrat Hashem, le shiur, je crois qu'on en a suffisamment dit, avec l'aide de Dieu, je sais, vous avez une connexion ici, les tireurs d'élite, ta connexion n'est pas bonne, est-ce qu'il paraît? Viens, on continue. Bezrat Hashem, ouais, toi, ça marche.
Non, je suis en train de vérifier tout, bien.
Alors, avec l'aide de Dieu, on voit que le troisième point qu'il y a, c'est que justement, lorsqu'on fait attention à ça, par rapport à cette pudeur-là, il y a une logique au sein du peuple d'Israël qui se met en place. Ce serait pas magnifique des gens entre eux qui apprendraient à se parler avec amour, avec respect, qui pourraient dialoguer sans s'insulter? Ce serait pas magnifique? Et de là on apprend, et c'est le troisième point qui est important, que la tzniout, ce n'est pas que le vêtement, c'est aussi une façon de parler, de se comporter vis-à-vis de son prochain. Et de ne pas déranger aussi, de la même façon que je ne veux pas déranger le regard de mon prochain, je ne veux pas déranger et causer du mal à mon prochain, lui causer un dommage à mon prochain, à un niveau à un autre. Pas uniquement à cause de ma pudeur, mais je ne vais pas moi m'amuser demain, je suis avec ma moto, d'accord? Je suis passé à côté d'une voiture, j'ai griffé la portière de la voiture, je me dis, ah, c'est pas grave, il a son assurance, et je m'en vais. Quelqu'un qui sera qui sera pudique, d'accord? Et qui aura l'amour de son prochain, il se dira, bon, quand même, peut-être qu'il n'est pas assuré tout risque. Peut-être que ça va lui coûter. Peut-être. Viens, je laisse mon numéro. Viens, je cherche le propriétaire. Viens, on discute. C'est important quand même. Il y a une certaine logique qui nous préserve à bien des niveaux sur bien des lois. Et c'est la raison pour laquelle les lois de la tzniout, et il y a d'autres versets qui en parlent, sont rattachés principalement à ce verset-là, qui est de Shim Tziou. À partir du moment où on a la tzniout, la pudeur, dans nos propos, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de nous parler, dans notre façon de régler nos différends entre nous, dans la façon de ne pas nous exposer aux yeux des autres nations, à régler nos différends entre nous au sein de la communauté, auprès de nos rabbanim, auprès de nos chefs spirituels, qui sont là pour nous guider, qu'on accepte leur aide, qu'on accepte le fait qu'ils nous guident, qu'on accepte le fait qu'on puisse échanger avec eux, et que les rabbanim, leur rôle à eux, c'est d'être ouverts d'esprit pour rapprocher le plus grand nombre de personnes sans rentrer dans les réformes, ras v'shalom, du judaïsme. Donc qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça justement? On voit justement que quand on a tout ça, il y a une véritable logique nationale, et ça quel que soit notre niveau de croyance ou de pratique. D'accord? Ici il y a différentes personnes, il y en a, il a la kippa srouga, l'autre il est en short avec la kippa noire, l'autre il est en mode Dieu bénisse beau gosse, voilà. Donc chacun son niveau, je respecte chacun comme... T'as pas mis de kippa aujourd'hui en plus, mais pour juste préciser que chacun, je respecte chacun tel qu'il est. On se respecte, il y a une logique entre nous. À partir du moment où on sait quelles sont les lois de la Torah et qu'on ne veut pas les réformer après, chacun est libre de les pratiquer ou non. Et on peut en débattre sans avoir besoin d'être haineux ou de mal se parler pour une logique.
Ou d'être jugé aussi.
Exactement. Mais c'est ça le but. Et justement, quelque part, en restant pudique, on évite de provoquer le jugement sur nous-mêmes. Quand on vient et qu'on s'expose, quand on vient, quand j'étais plus jeune, il y a un monsieur qu'on a bien connu, le docteur Marc Djebali. D'accord ? Que Dieu lui prête une longue vie, une bonne santé. Marcos, tu nous regardes. Bezrat Hashem, il regarde de temps en temps les shiurim. C'était à notre époque, à nous, il a été à un moment donné président de la communauté de Sarcelles. Et moi, il m'a dit une chose, il m'a dit, sache que si tu décides un jour de t'occuper de la communauté, il faut accepter le fait que tu te fasses critiquer. Et que tu peux pas, tu puisses pas plaire à tout le monde. Il faut accepter le fait d'être jugé, vu que tu t'exposes. Quelque part, quand on reste pudique et on évite de s'exposer, ça évite les jugements, entre guillemets, vous comprenez ? Donc, Bezrat Hashem. Donc, ça passe aussi par ça, la pudeur. Il y a énormément de dimensions, il y a énormément beaucoup de choses à dire. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'être toutes nouim, d'être pudique, Bezrat Hashem, dans notre façon de parler, de nous comporter. Bezrat Hashem, que Dieu fasse que l'ensemble du clan Israël puisse faire teshuva. Bezrat Hashem, que l'ahavat Israël, que l'amour de son prochain, Bezrat Hashem, que l'amour des créatures de Dieu l'emporte sur la haine gratuite entre les hommes, Bezrat Hashem, afin qu'on puisse connaître une véritable paix universelle, Bezrat Hashem, avec la venue messianique très bientôt. Amen, Kenny Ratson, à bientôt tout le monde.